Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, l'OMS salue les efforts du Rwanda pour contrer le virus Ebola. Les agences de l'ONU aident la RDC à lutter contre les pertes alimentaires. Les cas d'esclavage en Mauritanie examinés devant le Comité des droits de l'homme. Et en dossier, nous reviendrons sur les efforts de la Tunisie pour réaliser les objectifs de développement durable avec Diego Zorrilla, coordinateur résident de l'ONU dans le pays. Dans la région des Grands Lacs d'Afrique, le Rwanda est mobilisé face au virus Ebola, qui sévit dans la République démocratique du Congo voisine. Une mobilisation saluée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui confirme que le virus n'est pas présent au Rwanda. Depuis Genève, Alpha Diallo nous en dit plus sur les efforts déployés par Kigali face à Ebola.
L'Organisation mondiale de la santé a confirmé qu'aucun cas d'Ebola n'a été signalé à ce jour au Rwanda, malgré les niveaux élevés de trafic et de mouvement de personnes entre la République démocratique du Congo et Kigali. L'agence onusienne salue d'ailleurs les efforts de préparation du Rwanda. Selon Dr Tedros, chef de l'OMS, le Rwanda mène ce combat à tous les niveaux depuis que l'épidémie a été déclarée il y a presque un an en RDC voisine. Ce dispositif se matérialise au quotidien par un dépistage des symptômes d'Ebola aux différents points d'entrée de la frontière. Il s'est même renforcé depuis la confirmation d'un cas à Goma. Les milliers de personnes qui traversent chaque jour la frontière rwando-congolaise font vérifier leur température et se lavent les mains. Le Rwanda organise aussi des exercices de simulation pour maintenir un haut niveau de préparation. Un centre de traitement du virus Ebola a été mis en place au Rwanda et 23 unités d'isolement sont en préparation dans des hôpitaux de 15 districts prioritaires. Environ 3000 agents de santé dans les zones à haut risque ont été vaccinés à titre préventif, dont plus de 1100 à Gisenyi. Alpha Diallo, Nations Unies, Genève.
En République démocratique du Congo, les trois agences alimentaires de l'ONU ont proposé cette semaine un ensemble de règlements et de normes susceptibles de réduire les pertes alimentaires, surtout au niveau des petits exploitants agricoles. Des pertes qui sont évaluées à 30% de la production totale en RDC. Le Programme alimentaire mondial, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Fonds international pour le développement agricole appellent à ce que ce problème soit traité de manière prioritaire. Plus de précisions dans ce reportage d'Honoré Missenga de notre radio partenaire Radio Okapi.
Intégration des initiatives de réduction des pertes alimentaires pour les petits exploitants dans les zones à déficit vivrier, c'est comme ça que s'intitule le projet conjoint PAM FAO FIDA pour la RDC. Selon le représentant de la FAO, Artide Ongone Obame, l'ampleur des pertes alimentaires après les récoltes cause beaucoup de torts à la sécurité alimentaire et aux revenus des populations. D'où la nécessité du projet conjoint des trois agences onusiennes, projet qui porte sur deux axes, comme l'explique M. Artide Ongone.
Une chose, c'est de mener des activités pour qu'il y ait des bonnes pratiques au niveau des populations, c'est bien. Mais l'autre chose, c'est de créer au niveau d'un pays un cadre sur l'institutionnalisation de cette problématique. Il faut que dans les textes réglementaires de la République démocratique du Congo, il y ait une orientation, un texte politique qui prenne en compte cette problématique.
Et dans cette perspective, les trois agences de l'ONU mettent à la disposition du gouvernement congolais une note d'orientation politique que le représentant de la FAO a remise ce lundi au secrétaire général de l'agriculture à Kinshasa.
Le Comité des droits de l'homme est préoccupé par la persistance de situations d'esclavage et de préjugés solidement ancrés dans certaines traditions en Mauritanie. Dans leur observation finale concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, les experts indépendants onusiens insistent sur les difficultés rencontrées par les victimes de situations d'esclavage pour déposer plainte en vue de faire valoir leurs droits auprès des autorités policières et judiciaires. Les explications d'Ahmed Amin Fatala, président du Comité des droits de l'homme, au micro d'Alpha Diallo.
On a pris note qu'il y a une loi qui interdit l'esclavage. Alors c'est question de pratique dans la société en Mauritanie. Ça n'a rien à faire avec les lois. Alors on leur demande de faire leur possible pour un peu améliorer la situation sur le terrain. C'est un peu difficile de changer les traditions, alors il faut avoir, ça veut dire des publicités, il faut contacter la société, avoir des conférences, l'éducation dans les écoles, partout.
Mais qu'en est-il des difficultés rencontrées pour les victimes de ces situations pour porter plainte en cas d'esclavage?
Mais aussi la législation leur permet de porter plainte. Si vous avez la législation, ça lui permet de porter plainte.
Parce que le rapport parle de difficultés rencontrées pour les victimes de situations d'esclavage, oui, pour déposer plainte déjà.
Déposer plainte, mais ils ont expliqué que non, il n'y a pas de difficulté et qu'ils ont la liberté, toute la liberté pour porter plainte.
Par contre, vous, vous recommandez que ces gens puissent porter plainte sans aucune pression.
Oui, sûr, sans aucune pression. Mais le gouvernement a dit le chemin est ouvert pour qu'ils portent plainte. Alors nous, on dit, ok, essayez de faire du mieux pour que tous ces gens puissent arriver à la justice.
Comment atteindre les objectifs de développement durable en Tunisie ? Le pays d'Afrique du Nord a connu une révolution en 2011, nourrie par de fortes aspirations pour un changement politique, économique et social. Diego Soria est coordinateur résident des Nations Unies en Tunisie. Présent la semaine dernière au Forum politique pour le développement durable qui s'est tenu à New York, il explique à ONU Info les défis rencontrés par la Tunisie dans la réalisation des ODD.
Il faut distinguer entre des objectifs de processus, c'est-à-dire d'appropriation et de comment est-ce que ces objectifs sont reflétés dans la planification, et puis les réalisations concrètes par rapport à l'avancée des objectifs. Alors pour ce qui est, pour la première partie, la Tunisie, comme beaucoup d'autres pays, a établi un mécanisme institutionnel pour lui permettre de faire le suivi sur les objectifs et puis pour voir comment est-ce que ces objectifs sont reflétés dans la planification nationale. Il y a un plan national de développement qui est un plan quinquennal que la Tunisie adopte. D'ailleurs, cette année, il y aura des élections et d'après les élections, il y aura un nouveau plan quinquennal de développement qui doit être adopté. Et ce plan quinquennal reflète déjà un nombre des objectifs et des cibles spécifiques des objectifs de développement et de développement durable. À part ça, il y a après qu'est-ce qui est effectivement en train d'être fait dans les différents domaines que des objectifs. Parce que les objectifs, finalement, traitent chacun des objectifs, traitent de secteurs, même si tout, on dit que l'agenda est très interlié, interrelationné. C'est la caractéristique de cet agenda, c'est que bien qu'il y ait des objectifs par secteur, tous les secteurs sont interdépendants. Et il faut voir maintenant quelle est l'avancée qui est faite en matière des cinq grandes dimensions de l'agenda, qui est celle de la protection des personnes, la protection sociale, celle du développement économique, mais un développement économique durable, celle de la protection de l'environnement, celle de la construction d'institutions pour nous permettre d'avoir des sociétés en paix et justice, et celle des partenariats autour de cet grand agenda de développement.
Alors justement, sur la question des institutions, un expert des droits de l'homme qui est venu en Tunisie l'année dernière, il a constaté des retards dans la mise en place de certaines institutions, notamment la Cour constitutionnelle ou la nouvelle Cour des comptes. Est-ce que le gouvernement prend en compte ces considérations, ces observations faites par les experts et par les différentes agences de l'ONU?
Oui, le gouvernement certainement prend en compte toutes les recommandations qui lui sont émises. Mais moi, je voudrais mettre en contexte ces remarques parce que la Tunisie a réalisé une transition d'une façon extrêmement rapide pour ce qui est du cadre institutionnel et du cadre législatif. La Tunisie, qui a changé de régime politique en janvier 2011, je le rappelle, a négocié une constitution qui a été adoptée en 2014 et a tenu des nouvelles élections en 2014. Et depuis 2014, nous sommes maintenant dans une législature qui va maintenant prendre sa fin en octobre 2019, où nous aurons des nouvelles élections. Cette transition d'un système autoritaire à un système démocratique s'est faite de façon extrêmement rapide. Et c'est vrai que certaines institutions manquent encore, c'est-à-dire que la Constitution a prévu un cadre institutionnel qui est en train d'être mis en place progressivement. La Cour constitutionnelle, notamment, n'a pas été encore constituée. Elle doit être élue. Les membres de la Cour constitutionnelle doivent être nommés d'un côté par le Parlement, d'un autre côté par le président de la République et d'un autre côté par le conseiller de la magistrature. Et le Parlement ne s'est pas encore mis d'accord sur l'identité de ces personnes-là. Et c'est juste de constater ce retard, mais c'est aussi juste de constater la rapidité de cette transformation institutionnelle qui a été vécue en Tunisie. Par contre, là où les Tunisiens, les Tunisiennes sentent qu'il y a eu plus de retard, c'est par rapport à des transformations économiques et sociales qui étaient à la base des demandes qui ont généré la révolution et puis qui restent une grande aspiration de la Tunisie. C'est cette transformation économique qui doit permettre à la Tunisie de récupérer des taux de croissance soutenus plus élevés et qui lui permettra de créer les emplois pour permettre aux jeunes d'avoir des emplois, parce que c'est un des grands problèmes, une des grandes difficultés de la Tunisie actuellement, c'est le désemploi et particulièrement le désemploi des jeunes.
Fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.